Alors, on accueille actuellement, on va accueillir Laurence Massé pour parler de la SPCA. Vous êtes directrice générale. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ça fait plaisir de vous accueillir parce que là, c'est vraiment un moment, évidemment, un peu particulier. Là, il y a eu les déménagements. On parle d'abandon d'animaux, bien sûr, à la SPCA. Vous êtes un peu débordée, j'imagine.
Ah. Absolument, vous avez vraiment raison. Puis en fait, on l'attendait l'été, c'est toujours notre saison haute. Puis je vous dirais que dans les 4 premiers mois de l'année seulement, on avait déjà enregistré 21% de plus d'abandon qu'à la même période l'année dernière. Ça représente 250 animaux de plus qu'à la même période l'année dernière. Et comme vous dites, là, la date fatidique du 1er juillet n'était pas arrivée. Et là, on a remarqué là, vraiment depuis le début juillet, une recrudescence des abandons. Donc, effectivement, on déborde.
C'est ça, parce que, évidemment, les déménagements, ça se fait maintenant, ça s'étale un petit peu plus, là, il faut le dire, mais il y a toutes sortes d'autres raisons aussi qui font que les gens, doivent penser à abandonner leur animal de compagnie. Est-ce qu'on ne serait pas aussi victime du fait que, pas victime, c'est pas le bon terme, mais je veux dire, c'est qu'en fait, pendant la pandémie, bien des gens aussi se sont tournés vers les animaux de compagnie encore davantage. Et puis finalement, il y en a quand même pas mal là, actuellement.
Vous avez raison. Donc, on s'attendait à la fin de la pandémie à une recrudescence des abandons. Parce que, comme vous dites, là, les statistiques ont démontré que c'est plus de 200 000 familles pendant la pandémie qui se sont dotées d'un nouvel animal de compagnie. Donc, vous avez raison de dire qu'il y en a eu plus pendant la pandémie. Et là, 2022, retour à la normale. On s'attendait à ce que les gens abandonnent parce que, l'animal ne cadre plus dans leur rythme de vie. Mais je vous avoue que depuis 2023, donc l'année dernière, et cette année, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment l'inflation qui est au cœur des abandons, en fait, parce que vous l'avez dit, les logements, c'est la raison principale là, d'abandon, mais on a d'autres raisons qui sont pour la plupart financières. Ce qu'on remarque, c'est que cette année, derrière chaque abandon, il y a une raison financière, puis le contexte d'inflation là, exacerbe.
Exactement. Aussi, évidemment, cette semaine, on parlait à une vétérinaire, de sorte que oui, les vétérinaires se font rares, en ce sens qu'il y a tellement de gens qui ont des besoins aussi avec les animaux de compagnie, que là, c'est plus difficile, ça coûte cher d'avoir des services de vétérinaire. Et puis, tout le reste, là, finalement, la nourriture, les vaccins, ça finit plus, là.
Exact. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'en contexte d'inflation, les gens ne sont pas capables de mettre de l'argent de côté pour les imprévus médicaux. Donc, nous, on fait beaucoup d'éducation autour de combien ça coûte s'occuper d'un animal de compagnie à l'année. Mm-hmm. Puis oui, vous l'avez dit, il y a les soins de base, vaccins, nourriture, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment quand il y a un imprévu médical et là, la facture est plus salée. C'est là que les gens là, ont de la difficulté à subvenir en fait à ces coûts-là. Puis c'est là qu'on voit des abandons pour la plupart. Je ne vous cacherai pas que je me réjouis de voir le projet de loi qui a été déposé au début de l'été, en fait, le projet de loi 67, qui vise une réforme du Code des professions parce que actuellement, à la SPCA de Montréal, par exemple, on a entre 12 et 15 vétérinaires qui travaillent chez nous. Mais malheureusement, on ne peut pas offrir des soins aux animaux du public. Donc, s'il y a un animal du public qui est en besoin de soins, cette personne-là se voit dans l'obligation d'abandonner son animal pour qu'on puisse le traiter. Avec cette réforme-là, ça va permettre aux vétérinaires travaillant au sein d'organismes à but non lucratif d'offrir des soins aux animaux du public. Donc, on espère que le projet de loi va passer, puis ça va permettre de prévenir de nombreux abandons.
Dites-moi, je sais que les centres d'adoption SPCA débordent. Est-ce qu'il y a un avantage financier à aller se procurer un animal chez vous? Parce que, comme vous le dites, ça coûte tellement cher. L'achat aussi de l'animal au départ coûte cher, mais si on va les chercher en adoption, est-ce que c'est économique?
Vous faites même, je pense, je m'excuse, oui, c'est ça. Puis en fait, deuxième question, c'est que vous offrez même des journées, je pense, d'adoption gratuite.
Oui, tout à fait. Donc, plusieurs fois dans l'année, on offre des journées d'adoption sans frais, principalement là, quand le refuge déborde puis qu'on fait appel à la communauté là, pour venir adopter de façon plus massive, je dirais. Mais oui, c'est moins dispendieux adopter en refuge. Voyez-vous, nous, nos coûts, nos frais d'adoption varient d'une quinzaine de dollars pour un petit animal de compagnie comme un rongeur ou un lapin, mm-hmm. puis vont aller jusqu'à 500 dollars, par exemple, pour un chiot. Mais tous nos animaux sont vaccinés, vermifugés, stérilisés et ont vu un vétérinaire. Donc, on vous donne un portrait exact de la santé de l'animal, mais aussi, ils ont vu nos équipes de comportementalistes. Et donc, on est capable de vous donner aussi le portrait là, de l'animal au niveau comportement. Puis, ce qui est le fun d'adopter en refuge, non seulement on donne une deuxième chance à un animal qui en a besoin, mais nous, nos équipes prennent le temps avec les adoptants, d'expliquer vraiment le profil de l'animal, puis d'expliquer quels vont être les besoins à plus long terme de cet animal-là. Donc, on éduque aussi l'adoptant sur voici les prochaines étapes, voici le coût que va engendrer cet animal-là dans votre vie, etc. Donc, on a confiance que quand les gens partent de la SPCA de Montréal, bien que les frais d'adoption soient moins élevés, ils repartent avec tous les outils pour s'occuper de cet animal-là à long terme.
Mmh. Ben, c'est ça, exactement. Vous les éduquez en même temps. Et ben, je pense que c'est tout le travail aussi en amont, à savoir, quand on décide d'avoir un animal, il y a plein de questions de toute façon à la base à se poser. Là, le temps dont on dispose pour s'occuper d'un animal, il y a toutes sortes de... évidemment, envisager les coûts, mais quand on est bien informé, et ça, justement, vous êtes en mesure de le faire brillamment, là.
Absolument. Puis je vous dirais qu'on offre des suivis post-adoption aussi. Puis pour certains, par exemple, chiens qui ont des défis comportementaux un petit peu plus intenses, on met à disposition aussi nos équipes d'experts. Donc, je vous dirais que pour certaines adoptions, on a des conseils comportementaux qui sont donnés aussi là, de façon récurrente après l'adoption pour pouvoir aider ces adoptants-là. Puis j'invite aussi les gens qui ne sont pas sûrs de vouloir adopter à peut-être essayer de devenir famille d'accueil.
Ah.
Famille d'accueil, c'est un peu moins engageant parce que, bon, on n'adopte pas l'animal, mais ça nous permet de découvrir est-ce que j'ai le rythme de vie pour cet animal-là, est-ce que je comble les besoins de l'animal, etc. Donc, quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais eu de chien, avant de s'engager dans une adoption, peut devenir famille d'accueil pour un chien pour voir est-ce que ça cadre réellement avec mon rythme de vie. Puis ce qui est le fun, c'est que nos familles d'accueil ont toujours priorité sur l'adoption là, lorsque l'animal est disponible à être adopté. Donc, si jamais c'est un coup de cœur, bien évidemment, les familles d'accueil peuvent adopter l'animal.
C'est ça. Donc, c'est quand même assez... Bon, il y a des choses à remplir, des formulaires et tout quand on se présente chez vous. Il y a quand même des coûts, forcément. Mais en fait, c'est drôle parce que je voyais que, bon, on parle toujours de chats, de chiens et tout, mais il y a de plus en plus des lapins aussi, hein?
Oui, ben on a des lapins, on a des animaux exotiques, on a toutes sortes d'animaux là à la SPCA de Montréal. Évidemment, on a des oiseaux, des fois on a des reptiles. Puis moi, j'ai une anecdote là que j'aime bien raconter, mais qui vous donne une idée là de notre processus d'adoption. Il y a quelques mois, il y a une famille qui est venue pour adopter un chien à la SPCA de Montréal. Ils ont rencontré nos conseillers à l'adoption, puis on a passé à travers là une belle discussion pour se rendre compte que finalement, il y avait peut-être pas le rythme de vie, puis ils se rendaient pas compte de l'engagement que nécessitait un chien, et ils sont reparti avec une tortue. Moi, ça vous donne une bonne idée du processus, en fait, puis à quel point on écoute les gens, puis on s'assure de les pairer avec un animal qui vont répondre à leurs besoins, mais qu'eux vont être capables de répondre aux besoins de l'animal aussi.
Oui, non, je comprends. Alors, évidemment, à chaque année comme ça, ben, c'est votre hantise d'année en année, là, finalement, tous ces animaux qui sont abandonnés, puis vous vous retrouvez avec une population animale croissante, finalement, à la SPCA. Donc, vous devez aussi peut-être compter sur des gens qui veulent bien accueillir aussi des animaux. Alors, évidemment, tout le processus aussi d'adoption, c'est vraiment, on trouve tout sur votre site, là, pour... évidemment, nous permettre de réfléchir à tout ce que ça implique finalement que d'avoir un animal de compagnie, quel qu'il soit.
Exactement. En fait, sur spca.com, on a plusieurs articles statistiques là, qui vont vous exprimer bon le coût annuel d'un animal de compagnie, qui vont vous donner aussi des pistes de réflexion avant d'adopter. Évidemment, nos heures d'ouverture sont là pour les gens qui veulent adopter. Les formulaires pour devenir famille d'accueil sont aussi sur spca.com. Et je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas en mesure d'accueillir un nouveau membre dans leur famille, que ce soit de façon permanente ou temporaire. La SPCA de Montréal fonctionne avec des dons du public. Donc, si vous êtes intéressé à aider la cause animale, il y a toujours moyen de donner et chaque dollar est important pour nous parce qu'on est un organisme à but non lucratif qui fonctionne majoritairement sur les dons du public. Donc, il y a plein de façons d'aider et oui, c'est notre hantise à chaque année, ces abandons-là. Puis, ce qui va nous permettre, en fait, de prévenir à long terme ces abandons-là, on ne se le cachera pas, ça va être les changements législatifs. On travaille fort pour faire bannir les clauses interdisant les animaux dans les logements. On travaille pour rendre accessibles les soins vétérinaires et tout ça aussi est sur notre site internet, spca.com.
Ça, c'est donc, en crise de, avec la crise du logement. Je m'excuse, avec la crise du logement, c'est vrai que finalement, puis bon, beaucoup de propriétaires aussi n'acceptent pas les animaux. Alors, ça crée évidemment, ça crée une pression forte pour abandonner son animal de compagnie, bien sûr. Laurence Massé, vous donniez le site internet, mais enfin, je pense que je vous ai coupé la parole, là, mais enfin, je pense que ça se trouve facilement. Directrice générale de la SPCA, merci d'être venue nous en parler.
Merci à vous.
Au plaisir.
Merci.